Père céleste, pour la vie que tu nous as donnée, nous te louons. Ainsi que la santé et les moyens que tu as pourvus ce soir. Te sommes reconnaissants que, selon ta promesse, nous honorons de ta présence et nous vraiment nous sentons très honorés, sachant que toutes tes promesses, tu les accomplis. Et nous croyons vraiment ta présence au milieu de nous. Sois béni, Seigneur, parle-nous ce soir, que nous puissions avoir une parole d'édification en ce jour, pendant que nous attendons à ta venue. Et tous ceux qui attendent ta venue, aussi les yeux tournés vers les cieux, hein, sachant que tu viendras sur les nuées. Et c'est là que nous nous rencontrerons tous, où nous pourrons tous ensemble partir avec toi, et demeurer auprès de toi pour toujours. Sois-nous miséricordieux selon ta bonté et pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Ils sont nombreux. Que ta paix et ta grâce soient sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Te demandons aussi d'inspirer ta parole. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bien, nous allons lire ce soir une parabole que nous connaissons tous. Nous allons un peu l'aborder différemment de la manière habituelle que nous l'abordons. Luc 15. Verset 11, ce qu'on appelle la parabole du fils prodigue. Prodigue, ça veut dire dépensier. Il y en a qui disent parfois fils prodige, prodige, ça veut dire miracle. Prodige, ce sont des choses prodigieuses. Prodigue, celui qui prodigue. Dieu prodigue des soins, il donne énormément de soins. Ça va? Lui, il a dépensé tout ce que son père lui a donné. Verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance ?» Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. pouvez vous asseoir. Ce n'est pas le sujet, mais j'aurais bien voulu voir cette plus belle robe qu'on a, pendant qu'on a souvent tendance à penser que la meilleure façon chrétienne de s'afficher, c'est de s'afficher tout simplement en négligé. Non, c'est la plus belle robe. Il fallait qu'on le revête et de lui mettre un anneau au doigt. Comment on appelle ces anneaux au doigt? On les appelle des alliances. Alliance, ça veut dire que ça ne veut pas dire mariage, un anneau. L'anneau, c'est une alliance. Un mariage est une alliance. Une alliance n'est pas nécessairement un mariage. Ça va? Non. Quand quelqu'un qui est marié porte ça, ça montre qu'il est lié à une alliance avec une autre personne. C'est ce que nous savons. Bien, mais le sujet ce soir, ça va nous surprendre. La phrase ne se trouve pas là, dans ce que nous avons lu, mais ce sera le Père qui est riche en miséricorde. Cette parabole est souvent, le plus souvent apportée, prêchée, pour parler de la repentance. Ça, c'est lorsqu'on se met du côté du pécheur, du côté du fils dépensier. Mais il est bon aussi un jour de se mettre du côté du papa. Ça va? Parce que qui est celui qui nous parle du Père? Ici, dans la Bible, c'est bien Jésus-Christ. Ça va? Il est bon de se mettre du côté du Père, du Papa. Hein? Comme cela, on peut voir les deux côtés. Il y a le côté du pécheur qui se repent, qui revient à son Père. Il y a le côté du papa qui accueille son fils. Et Dieu, Jésus-Christ, justement, il veut mettre en avant cet attribut de Dieu qui est la miséricorde. Pour bien comprendre qu'il s'agit de l'attribut de miséricorde, il nous demande d'être miséricordieux comme notre Père Céleste est miséricordieux. L'homme n'a pas cette nature-là d'être miséricordieux. Il faut que Dieu nous accorde cette nature-là. Quand il dit « Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux », c'est une manière de faire de nous des gens miséricordieux. Et pour bien comprendre que c'est un peu cela, pourquoi est-ce que Jésus raconte cette parabole ? Ça ne vient pas comme ça, du coup, par hasard. Il y a une raison pour laquelle il en parle. Et la raison, on voit ça dans les deux premiers versets du chapitre 15. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Ça va ? Donc, ceux qui venaient pour l'écouter, pour l'entendre, c'était des publicains et des gens de mauvaise vie. Et ils s'étaient approchés pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Ce qui signifie que Jésus-Christ ne devait pas accueillir des gens vivant mal. Il ne devait même pas manger avec eux. Mais il le fait quand même. Ici, il y a le papa du jeune homme qui offre au jeune homme un salut, un rétablissement dans la maison en tant que fils. Et Jésus défend cette position-là, où le père remet l'enfant dans sa position de fils, alors que lui demande, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Mais le père n'écoute pas ça, il n'écoute que son sentiment de père, il n'écoute que ses fibres paternelles. Tout cela, c'est dû à la nature du papa. C'est qu'on dit souvent aux enfants, parfois ils ont difficile à comprendre, qu'ils soient petits, qu'ils soient plus grands, ou parfois même un peu dans un âge moyen, les enfants ne comprennent pas souvent que les personnes, en tant qu'humains, qui les aiment le mieux au monde, ce sont leurs parents. Les parents peuvent se tromper sur beaucoup de choses, c'est vrai, sur des décisions à prendre, mais je dis toujours, ils se trompent dans l'amour et non pas dans une manigance d'essayer de tromper les enfants ou de gagner leur confiance afin de pouvoir les tromper plus tard. C'est vraiment par amour et c'est tout à fait désintéressé. J'aime mon fils, ma fille, parce que c'est mon fils et ma fille, et je ne veux pas qu'il leur arrive quelque chose de mal. Et quand je vous leur dis que ceci est mauvais, c'est que je le sens vraiment que c'est mauvais. Je termine à ça. Par contre, quelqu'un d'autre, parfois même de l'Assemblée, alors que vous, vous avez dit à la maison, c'est mauvais, une personne dans l'Assemblée peut venir dire la même chose. Dire, pourquoi est-ce que tu fais ci, tu fais ça, ou tu t'affiches comme ci, ou tu t'affiches comme ça. Vous savez, là, ce qui pousse à dire n'est pas, même s'ils disent la même chose que vous, ce n'est pas avec le même élan d'amour que cela est dit. Cela est dit dans un autre élan d'amour. Quand je réprimande mon enfant, mon fils que j'ai engendré ou ma fille que j'ai engendrée, je le réprimande, je la réprimande parce que c'est mon sang et je viens avec tout l'amour que j'ai pour eux. Un autre va venir leur dire des choses, c'est pas bien, c'est bien, par l'égalisme, sans sentiment. Mais ce qui me concerne, en ce qui vous concerne, en tant que parent, c'est avec sentiment et des sentiments d'amour. Peut-être même que vous n'aimiez pas ce jeune homme-là ou ces jeunes filles-là. Cette jeune fille-là, depuis longtemps, vous avez enfin une fois l'occasion de lui taper sur la tête. Mais par contre, le papa ou la maman, ce n'est pas le cas. Le papa ou la maman, son problème n'est pas, enfin, je peux lui taper sur la tête, c'est faire de sorte que l'enfant soit bien. Amen. Et Jésus défend justement la position de ce papa. Et vous savez, ces publicains et ces gens de mauvaise vie, ce sont des Israélites. Matthieu en était un. Il était publicain. Ce sont des Israélites qui sont partis, si je peux dire ainsi, spirituellement parlant, dans un pays éloigné, où tout ce qu'ils ont reçu spirituellement de bien de la part de leurs parents, ils ont tout dépensé. C'est le cas de Zachée. Zachée avait reçu la loi. Zachée connaissait la loi. Zachée connaissait la parole. Il y a de ces enfants que les parents ont amenés à l'assemblée, que les parents ont enseignés à la maison, qui connaissent beaucoup de choses, de bien qu'il faut faire, mais ils ne le font pas. Et c'était le cas de ces publicains et de ces gens de mauvaise vie. C'était le cas de ce fils prodigue qui est parti dans un pays éloigné. Il savait ce qu'il y avait de bien dans la maison de son père, mais il a voulu, avec les bénédictions qu'il a reçues. Vous savez, quand nous avons appris ça, en cet âge, qu'il pleut sur les bons et sur les méchants. Quand la pluie est tombée, nous avons tous reçu des bénédictions. Et beaucoup d'entre nous ont reçu des bénédictions. Après avoir reçu des bénédictions, ils s'en sont allés. Oui. Je crois qu'il y a pas, il y a quelques jours, on a parlé de ça, hein, de cette personne qui vient avec sa requête. Il demande à ceux qu'on prie pour lui pour qu'il puisse trouver du travail. Dieu lui donne du travail. Il travaille. Finalement, le travail devient la cause de son départ dans un pays éloigné, spirituellement parlant. Frère, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, frère, j'ai beaucoup de travail. C'est le même travail dont il a dit devant toute l'assemblée, devant les autres, disant, je remercie le Seigneur pour m'avoir donné du travail. Et maintenant, si Dieu vous a donné du travail, ce n'est pas pour que vous vous éloigniez de lui. C'est pour que vous restiez près de lui. Alors, c'était des Israélites. Ils avaient plein de biens. Là, souvent, on l'a souvent dit, les Israélites, Israël, c'est un peuple béni. Ils avaient plein de choses. Romains 9, Paul le dit. Ce n'est pas la première fois qu'on lit ça. Verset 1er, Paul dit, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème, maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent, regardez ce qui leur appartient, l'adoption, c'est à eux. La gloire, c'est à eux, pas les païens. Les alliances, c'est à eux. Dieu a fait alliance avec eux. Hein? Vous vous souvenez de cette Syrophénicienne qui vient demander, fils de David, aie pitié de moi, ma fille est au plus mal. Dieu, Jésus-Christ dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et la donner aux chiens. Non, les alliances, c'est à eux. Seuls ceux qui étaient dans l'alliance pouvaient l'appeler fils de David, mais pas cette femme-là. Et aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, vous êtes de ceux que Jésus a dit que il vous est permis d'appeler le Dieu très haut, votre Père céleste. Il vous a donné un esprit qui dit « Abba Père ». Quand vous avez un besoin, vous criez « Abba Père ». C'est à vous. Vous avez le droit de le dire. Les anges n'ont pas ce droit-là de l'appeler « Père ». Mais vous et moi, nous avons ce droit. Abba Père. La loi a été donnée aux Israélites. Le culte, les promesses sont à vous. Les promesses, voici ce qui accompagnera, n'est-ce pas, les choses qui accompagneront ceux qui ont, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dieu vous promet des miracles. en son nom. Vous prierez pour les malades, vous leur imposerez les mains, ils seront guéris. En son nom, vous chasserez les démons. Et les démons fuiront. En son nom, vous ferez toutes ces choses. Les promesses, les patriarches, vous êtes en droit de dire aujourd'hui, n'est-ce pas, Galates nous le dit, que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Ce qui signifie que les promesses faites à Abraham, elles sont aussi pour vous. Exactement comme Zachée, lorsque Zachée a commencé à dire, n'est-ce pas, je rendrai au centuple, n'est-ce pas, hein, c'est dans Luc 19 qu'il dit ça, hein, mais gardez Romains 9, dans Luc 19, lorsqu'il dit, au verset 8, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le centuple. Scofield nous dit, c'était en accord rigoureux avec l'exigence de la loi. Exode 22, 1. C'est que Zachée est en train de dire là. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, pas parce que tu vas rendre ça au quadruple, selon la loi, pas parce que tu vas donner dans la moitié de tes biens aux pauvres, ce n'est pas pour ça, mais le salut est entré parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Le fait d'être fils d'Abraham, puisque Abraham est les patriarches, ça veut dire Abraham, Isaac, Jacob, les descendants de Jacob. Donc, qui sont détenteurs des promesses qui sont à vous, vous êtes en droit aujourd'hui de prier le Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham, vous n'êtes peut-être pas fils d'Abraham selon la chair, mais vous êtes fils d'Abraham par la foi. Et tout ça, c'est à vous. C'est aux Israélites. Mais ces publicains et ces gens de mauvaise vie, ce qui était le cas de Zachée, ce sont des gens qui s'en étaient éloignés. Et de qui est issu, selon la chair, le Christ? Nous savons que tout a été réuni en Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Ça va? Et ces publicains et ces gens de mauvaise vie s'étaient mêlés aux païens, hein, n'est-ce pas? Et ce sont eux qui étaient là, qui regardait de loin le Seigneur en train d'offrir, qui était là avec le Seigneur, ces publicains, ces gens de mauvaise vie, dont les pharisiens et les scribes murmuraient, regardaient, comment est-ce que celui qui dit être le Christ, comment se fait-il qu'il peut être au milieu de ces gens-là? Ces gens-là ont fait ça, ils ont fait ci. Ils nous ont pris ça. Ils nous ont, comme Zachée a pris beaucoup de bien aux gens. C'est pour ça qu'il dit, je vais remettre aux pauvres. Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Comment est-ce possible, lui se disant le Christ, peut-il faire une chose pareille? Alors que nous, qui avons toujours rigoureusement observé la loi, il ne mange pas avec nous. Il préfère manger avec frère François, alors que nous, on a toujours été avec lui. Et le Père dit ceci, c'est là où on comprendra le titre, on revient dans Luc 15. On reprend le verset 23. On va le lire plutôt, puisqu'on ne l'a pas lu tout à l'heure. Verset 23. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Et il était perdu, et il s'est, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Cette phrase, « Mon fils était mort, il est revenu à la vie », Paul la prononce dans Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2. Verset 4, on peut commencer un peu plus haut. Hein. On peut commencer au verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses. Ça va? Amen. Si vous êtes des Éphésiens, je vous dis ce soir, auparavant, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, par nature, hein, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, comme vous, la manière dont vous aimez vos enfants. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Mes enfants qui étaient morts, ils sont revenus à la vie. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble, où ça? Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pour un juif, pour un pharisien, c'est impensable qu'un frère François puisse être amené, qu'on puisse le faire asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Où il y a toutes les bénédictions spirituelles dans ces lieux célestes. Toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ, c'est là qui vous fait asseoir ce soir et ces bénédictions sont à vous. Comment se fait-il que nous qui étions de mauvaise vie, pouvons-nous bénéficier de cela? C'est la question que les pharisiens se posent. Et c'est la question que le fils aîné se pose. Il dit, moi j'ai toujours été avec toi papa. Jamais je n'ai dépensé ton argent. Ce que tu m'as donné, jamais je n'ai dépensé cela avec des prostituées ou n'importe comment. Jamais je n'ai fait ça. Et pour moi, tu n'as jamais organisé de fête. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. En Jésus-Christ. C'est que la grâce de Dieu, elle surprend les gens. Dieu fait grâce aux plus grands des pécheurs. Le Père, le Fils essaie de montrer la gravité. Le Fils aîné. Il essaie de montrer la gravité des fautes de son petit frère auprès du papa, mais le papa reste imperturbable. Il dit, je sais, ce qui est à moi est à toi. Mais ton frère, il était mort. Et c'était quelque chose qui le déchirait en lui, son père. De savoir que son fils était mort. Là où il est allé à la mort. Ça le déchirait, ça le tourmentait. Et c'est là où je vous dis, quand vous réprimandez votre enfant ici, c'est suite à des choses que lui fait qui vous déchire depuis longtemps. Tandis que l'autre, lorsqu'il va venir, il peut être son frère, il peut être sa sœur, quand il va venir, c'est juste en un flash qu'il va juger. Qu'il a fait ça, qu'il a fait ça, tu ne devrais pas lui pardonner. C'est là où la grâce de Dieu, n'est-ce pas, désarçonne les gens. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda, « Qu'est-ce qui se passe à la maison ?»« Chez nous, on ne danse pas. Chez nous, on ne joue pas la musique. On est ça. » C'est pas ça la sainteté. Hein. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. » C'est ça la grande nouvelle. Ton frère est de retour. Et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère. Vous voyez ? Parfois, la réussite de quelqu'un peut mettre quelqu'un d'autre en colère. Mais la personne qui aime ce quelqu'un-là, lui, il est content. Il est heureux de sa réussite. Oui. Moi, je me tue à faire ça, mais je n'ai pas, mais lui, il a. Mais Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Son père lui montre qu'il l'aime aussi. Que l'autre ait commis des fautes, son père l'aime toujours. Il n'aime pas ses fautes, mais il aime lui. Et toi qui n'as pas commis de fautes, il t'aime aussi. Vous n'allez pas demander à ce que votre père vous aime plus vous parce que vous n'avez jamais commis de faute par rapport à l'autre. Mais non, il vous a tous les deux engendrés. Amen. Vous êtes ses enfants. Mais il répondit à son père, voici, on lui demande d'entrer. Lui, il répond, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Ça me rappelle le jeune homme riche. Tu connais les commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu feras ceci, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas adultère. Depuis ma jeunesse, je fais ça. Jésus l'aime. Mais il te manque une chose. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort. Et cette situation-là me déchirait. C'est là que la miséricorde intervient. Dans nos souffrances, dans notre misère, c'est là que la miséricorde intervient et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Donc les pharisiens et les scribes murmuraient en s'opposant ainsi à l'offre, si je peux dire, à la miséricorde que ce papa offrait à son fils. Les pharisiens et les scribes, c'est pour ça que Jésus leur raconte cela. Jésus dit, il leur dit aux pharisiens, d'ailleurs il les a traités de tombeaux blanchis, hein, de sépulcres blanchis. Il dit aux pharisiens, il dit, c'est vrai, vous n'avez jamais transgressé. On ne sait rien mettre comme, on ne sait pas mettre le doigt sur une quelconque faute de votre part. C'est vrai. Mais ceux-ci se sont repentis. Eh bien, il y a de la joie dans les cieux pour un seul pécheur qui se repent. C'était cette parabole-là, de la joie dans les cieux pour un seul pécheur qui se repent, et juste au-dessus, c'est la parabole de la brebis perdue. C'est toujours en réponse à ces pharisiens et ces scribes. Oui. Et Jésus-Christ dit, il est venu pour les malades et pas pour ceux qui sont en bonne santé. Maintenant, qu'est-ce que nous devons tirer comme leçon? C'est que, et ça nous le chantons, la miséricorde de Dieu, elle ne tarit jamais. Jamais. Elle dure à toujours. Le psalmiste l'a constaté. Il a été inspiré. Psaume 136, n'est-ce pas? Ça, ce sont des choses qui ont réjoui mon cœur. Juste ce fait-là, que la miséricorde de Dieu, elle dure à toujours. Vous savez, si vous lisez ce psaume 136, ça peut à un moment donné devenir ennuyeux. Mais c'est des choses merveilleuses qui sont proclamées là. Louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des Seigneurs, car ses miséricordes durent à toujours. Vous pouvez continuer jusqu'au verset 26. Le verset 26, louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Quelle que soit la faute que vous commettez, la miséricorde de Dieu est toujours prépondérante. Et pourtant, Dieu n'est pas un grand-père qui nous laisse faire ce que nous voulons. Dieu peut se mettre en colère. Alors, je regarde un peu sur sa colère. Une chose qui m'a frappé cet après-midi, c'est que Dieu, d'abord, il est lent à la colère. Non seulement ça, mais sa colère ne dure pas à toujours. C'est pas merveilleux, ça? Amen. La colère de Dieu ne dure pas toujours, mais sa miséricorde, oui. Psaume 103. J'ai compris pourquoi Frère Abraham dit, je suis content que Dieu soit riche en miséricorde. Psaume 103. Verset 8, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Dites amen à ça. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Si vous êtes parti dans un pays éloigné, il y a un Dieu qui vous attend. Le Dieu véritable vous attend. Et quand vous reviendrez à lui, sachez ceci, sa colère aura disparu. Qu'importe ce que vous avez fait, repentez-vous. Quand vous serez repenti, Dieu vous accueillera, il vous embrassera, il vous introduira au rythme des chants, des cantiques. Ton frère, quoi qu'il te fasse, soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Ton frère ou ta sœur, quoi qu'il fasse, quoi qu'elle fasse, restera toujours ton frère ou ta sœur. N'oubliez jamais ça. Ton père, quoi qu'il fasse, ou ta mère, sera toujours ton père ou ta mère. Vous ne pouvez pas dire à votre père, d'ailleurs tu n'es plus mon père. Quand on était petit, dans la cour de récréation, quand on se disputait avec quelqu'un, on disait, tu n'es plus mon ami. Oui, ça oui. Ça, on peut le dire. Mais tu n'es plus mon frère, vous ne pouvez pas le dire. Frère Branham disait, vous savez, entre les Branham, nous avions des problèmes entre nous. Quand on était dans la maison, on réglait nos problèmes entre nous. Mais quand on était devant la maison, nous étions tous des Branham, un Branham, tous unis. Nous aussi, c'est pareil. Ici, dans l'assemblée, on peut parfois se secouer, oui, selon la parole. Hein, selon la parole. Mais quand on est dehors, nous sommes des frères et sœurs de l'assemblée. Quand bien même vous faites les choses qui ne sont pas bien, ici dans l'assemblée, on vous le dira. Mais quand on est dehors, défendons-nous les uns les autres. Non, c'est un très chic frère. Même s'il vous a fait quoi que ce soit, c'est un très chic frère. Pourquoi ? Parce que ce frère-là, quand il vient avec sa requête, il viendra aussi demander à ce que vous priez pour lui. Alors si vous ne l'aimez déjà pas, comment est-ce que vous pouvez prier pour lui ? Ouais. Donc, entre nous, que ce soit dans les familles, que ce soit ici dans l'Assemblée, nous sommes frères.
Amen.
Et plus encore, un frère d'une autre assemblée. Devant les païens, tant qu'on sait que c'est un frère, même si entre les deux assemblées, vous ne vous entendez pas bien, mais quand on parle mal par les païens de l'autre assemblée là-bas, tant que vous savez que vous croyez au même Dieu, vous défendez votre frère.
Amen.
Défendez votre sœur. Surtout, ne dites pas aux païens, « Oui, mais ceux-là, tu sais, ils sont comme si... » Non, ne dites pas ça. Dites, « C'est mon frère, c'est ma sœur. »
Amen.
Amen. Hey, mais ce sont des branhamistes. Non, mon frère n'est pas branhamiste. Même si nous, on croit, on sait qu'il est branhamiste. Non, il n'est pas branhamiste. Il croit en Jésus-Christ comme étant son sauveur personnel. C'est comme ça que le Père nous accueille. Le beau-père du frère nous avait exhorté ici, quand il était passé, aimez-vous les uns les autres. C'est très important. Et l'apôtre nous exhorte aussi, Jésus nous exhorte aussi, aimez-vous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est. Ce Père riche en miséricorde, regardez comment il n'écoute même pas son fils aîné, il ne l'écoute pas. Le fils aîné, il raconte tout un chapelet de fautes de son frère, il n'écoute même pas ça. Il dit non, ton frère, hein, tout ce que je sais, ton frère est de retour. Il était mort, mais maintenant il est vivant. Prions le Seigneur. Prions. Père céleste, c'est vrai, nous sommes heureux que tu sois riche en miséricorde. Nous sommes très heureux. Et tu es lent à la colère et tu ne gardes pas ta colère à toujours. Par contre, ta miséricorde, elle ne tarit jamais. Jérémie dit, tes bontés se renouvellent chaque matin. Elles ne sont jamais épuisées. Et nous t'en sommes reconnaissants. Puisses-tu nous combler de tes bontés. Puisses-tu nous combler de ta miséricorde. Puisses-tu nous combler de ta grâce. C'est vrai que nos péchés sont nombreux, mais nous venons chaque fois à toi et nous disons, et nous confessons nos fautes et nous disons là où nous avons péché et nous te remercions. Sois béni, Père. Sois loué. Je te prie de bénir l'Assemblée. Je te prie de bien vouloir avoir pitié de nous, d'entendre nos prières, qu'elles montent vers toi avec les prières des saints en faveur de nos bien-aimés, ceux qui ont besoin de guérison, ceux qui ont des besoins tout court, selon ce que toi tu connais, parce que tu es Dieu, tu connais tous nos besoins. Veuille recevoir nos prières avec toutes les prières des saints et nous exaucer. Telle est notre prière ce soir. Maintenant, tu nous as permis que nous puissions nous réunir ce soir. Merci pour cela. Te mettons notre chemin du retour entre tes mains. Que tu nous raccompagnes au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.